Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on compte bien le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama qui aujourd'hui va vous permettre de jouer encore un blind test dans cette émission. Alors on va jouer avec la filmographie de François Cluzet. Je me suis aperçu qu'on n'avait jamais fait ça, jamais de blind test autour de la filmographie de François Cluzet. Et il se trouve qu'il joue dans un film actuellement sur les écrans qui s'appelle Fils de. Toi, Sophia, tu fais ton arrivée dans cette nouvelle saison de Cinérama, enfin ton retour plus exactement, et tu as un film.
Et oui, je reviens donc avec Connemara que j'ai pu voir à Cannes, le dernier film d'Alex Lutz.
Et puis toi, Guillaume, deux films.
Oui, le dernier Spike Lee, Eyes to the West, qui était à Cannes aussi, et qui n'a pas eu le même accueil. La reprise du chef-d'œuvre absolu de John Woo, À toute épreuve.
Et puis moi, je vous parlerai aussi d'un film qui était présent à Cannes, qui est une comédie, c'était le film le plus drôle d'ailleurs que j'ai vu là-bas. C'est Libre Échange, et je vous parlerai très rapidement de Fils de. Comme il n'a pas eu les droits d'adapter leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, eh bien Alex Lutz a adapté le roman Connemara de ce même Nicolas Mathieu. Nous en parlons maintenant dans Cinérama.
Bah oui, c'est le film, et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Prêt, feu, partez!
C'est parti!
Ça va?
Ah oui, pourquoi?
Avec Philippe.
Ah non, ça va pas, non, avec Philippe.
Puis de toute façon, le principal, c'est ton boulot.
Je crois pas, non, mais tout va bien, ce côté-là. Ah non, ça va pas non plus de ce côté-là, tu vois.
Terre brûlée au vent. Des landes de pierre. Et oui, maintenant, vous l'aurez dans la tête, ne me remerciez pas. Le Connemara évoque inévitablement Les Lacs hein, de Michel Sardou, mais c'est aussi la dernière réalisation filmique d'Alex Lutz, un artiste aux multiples casquettes, acteur, humoriste, metteur en scène, entre autres, et réalisateur. Alex Lutz, c'était Catherine hein, dans le duo humoristique de l'émission Catherine et Liliane. Il a également remporté deux Molières de l'humour pour ses spectacles, hein, ses seuls en scène. Avec Connemara, il se frotte un tout autre registre dramatique, adaptant le roman éponyme Connemara de Nicolas Mathieu, publié en 2022. Alors Nicolas Mathieu, un nom qui vous est peut-être familier, lauréat du prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux, adapté également au cinéma en 2024, pas par Alex Lutz, mais par les frères Boukerma. On peut dire qu'il a le vent en poupe, hein, Nicolas Mathieu. Très ancré, hein, situé dans la ruralité, l'auteur développe encore dans Connemara une histoire qui s'inscrit entre Nancy et Épinal et fait le récit de fractures. Le burn-out d'une quarantenaire d'origine modeste à Paris et de France, opaque, que tout sépare, qui tente de se retrouver, de se rencontrer sur un territoire, celui du Grand Est.
Fermez les yeux. Relaxez-vous. Concentrez-vous. Que voyez-vous, là, maintenant?
Épinal, est-ce que vous êtes là?
Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente et on porte ce resto franchisé. Christophe Marshall.
Hélène, incarnée par Mélanie Thierry, hein, quarantenaire cadre supérieur à Paris, souffre d'un burn-out brutal. Elle décide de quitter la capitale avec sa famille, hein, enfants et mari, pour retourner dans les Vosges, sa région d'origine. Là, elle retrouve Christophe, joué par Bastien Bouillon, un ancien camarade de lycée, hockeyeur sur glace populaire dont elle était éprise. Devenu pompier, il incarne une vie qu'elle a laissée derrière elle depuis longtemps. Le film explore leurs rencontres, leurs différences, les souvenirs associés à ce territoire et la vitalité psychologique qu'il permet d'invoquer, la confrontation entre deux France aussi, hein, qui se cherchent et se redécouvrent. Christophe ?
C'est quoi un mec comme moi ?
Bah une star.
Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star ?
Quand on est seul.
Non. Papa,
non. On se voit. On se fait du bien.
C'est pas aussi simple.
Attends, je te rappelle. Pour ceux qui ont vu Partir un jour d'Amélie Bonin, également présenté à Cannes en 2025 en ouverture de festival, hein, car je rappelle qu'il est possible de voir le film d'ouverture du festival le soir même, hein, comme si on était à Cannes dans de très nombreux cinémas sur tout le territoire français. Eh bien, évidemment, une comparaison thématique, hein, saute aux yeux. Le cinéma se saisit beaucoup, hein, du thème de la France périurbaine et de sa classe moyenne déchue. Dans Partir un jour, Bastien Bouillon incarne Raphaël, un homme resté ancré dans son territoire, figé dans un lieu et comme également figé dans le temps. Dans Connemara, il reprend un rôle similaire, celui de Christophe, un pompier qui n'a jamais quitté sa région et qui reprend le hockey de son adolescence. Bon, alors c'est quand même rigolo de voir encore Bastien Bouillon chaussé dans deux films différents des patins à glace. Ces deux personnages représentent des hommes liés à leur terre, comme bloqués dans une histoire bornée qui les empêche d'évoluer, mais qui les rend aussi paradoxalement très désirables aux yeux de celles qui reviennent un jour. Embourgeoisés, mais profondément attirés par ces prolos retrouvés, fragiles, mais virils et libres.
Toi, t'as toujours vécu là ? T'as jamais vu plus grand, parfois ?
Je crois qu'un mec comme moi, ça rêve pas. Sauf que pour des gens comme vous...
Mais c'est vrai que c'est pas facile de revivre ces choses-là, Carenberge.
Tu peux pas me dire les choses ?
Bah parce que c'est toi qui pars !
On est débutants.
Oui !
Pas très dégourdi.
Ça !
Oui !
On trouve de la beauté n'importe où. C'est pas désagréable.
Finalement, Connemara capte dans de grands soupirs de nostalgie, hein, la vibration des rêves et souvenirs d'adolescence qui se heurtent à un présent aride et balayé par le vent. Hélène, en retrouvant Christophe, tente en vain de rallumer les flammes d'un amour de jeunesse, un feu éteint que le temps et la vie ont depuis longtemps refroidi. Cette rencontre impossible, hein, rappelle beaucoup, simple comme Sylvain de Monia Chokri. Alex Lutz, lui, connaît le prix du silence et sait l'utiliser, hein, pour nous mettre en résonance avec l'indicible souffrance de son héroïne. Il s'attarde moins à dépeindre la fracture sociale du territoire qu'a révélé celle qui habite ces personnages, la dépression, le désenchantement. Et la chanson « Les lacs du Connemara » devient le symbole de cette fracture. Pour certains, elle accompagne tous les bals, mariages et fêtes de village. Pour d'autres, elle n'est plus qu'un simple objet de mépris, comme un écho lointain d'un passé que l'on ne peut ou ne veut plus retrouver.
Connemara d'Alex Lutz, que j'ai moi aussi vu, que j'ai trouvé très bien. Alors ça m'a donné envie de lire l'ouvrage en fait de Nicolas Mathieu. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une expression cinématographique qui se voit dans l'image et puis dans la construction du récit. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Alors non seulement dans le propos, mais ça tient à l'écriture même du romancier, mais aussi dans cette traduction filmique. Voilà. Donc autant dire que je recommande chaudement Connemara, donc d'Alex Lutz, sur les écrans depuis le 10 septembre. Allez, maintenant, on parle du film le plus drôle du Festival de Cannes 2025. C'est Libre-Échange.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Certains se souviennent peut-être de deux amis américains qui montaient un col français avant que l'un des cyclistes ne révèle une infidélité qu'il concernait, rendant l'expédition plus cabreuse et bavarde que sportive. Avec The Climb, Michael Angelo Covino et son complice Kyle Marvin, tous les deux à l'écran, avaient frappé un grand coup grâce à une comédie aux intentions burlesques, irrévérencieuses et très bien écrites. Les deux hommes ont repris les mêmes ingrédients avec Libre-Échange, mais dont le titre original est Splitsville, soit La Séparation. C'est avec ce titre, hein, que j'ai vu le film à Cannes, en ne sachant pas bien ce que j'allais voir avant que je reconnaisse en quelques minutes eh bien, le style de Michael Angelo Covino, comme on reconnaît un Woody Allen, un Pedro Almodovar ou, allez tiens, un Tarantino. Cette musique sirupeuse fait partie donc de la bande originale du film. Le film commence sur les chapeaux de roue avec un voyage en voiture d'un couple qui se sépare. C'est Ashley qui l'annonce à Carey, qui malgré les péripéties d'un accident, court dans la campagne, nage dans un lac vers un couple d'amis, Julie et Paul. Là-bas, ils trouvent des oreilles attentives, mais aussi la recette de leur bonheur conjugal. Ils sont en couple libre. Cela signifie que chacun peut décider d'avoir une relation avec un autre partenaire que son conjoint. À les entendre, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, un couple moderne. Mais ce modèle en retrait de la normalité va vaciller quand Carey et Julie vont se rapprocher. Alors je suis bien obligé d'éventer un peu le scénario de ce screwball comédie, comme on l'appelle, soit une comédie loufoque dont l'intrigue est centrée sur des questions de mœurs, notamment eh bien, les thèmes de la rupture, du divorce, du remariage ou de l'adultère. Et c'est un peu tout ça dont il est question dans Libre-Échange, une comédie bavarde rythmée par des rebondissements avec un minimum d'action viriliste.
Toi qui es seul et qui réclame
un peu d'amour et d'amitié, un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter.
Alors là, cette fois-ci, c'est Gilbert Bécaud aussi dans la bande originale du film. Il faut savoir que le réalisateur adore la France. Le réalisateur qui a coécrit avec son complice à l'écran nous fait partager les relations entre Carré et son couple d'amis, nous laissant voir les limites de l'acceptation et de ce goût de la liberté. Et dans le même temps, il nous laisse voir comment son ex-petite amie vit la rupture. Alors ce n'est pas en se morfondant, mais en multipliant les conquêtes. Le réalisateur fait de cette situation un ressort comique en agglutinant les amants dans le même appartement, comme si tous ces hommes étaient les proies ou les victimes consentantes d'une même femme. Alors il n'est pas exagéré de dire qu'on rit beaucoup à regarder Libre-Échange, grâce notamment au goût pour le burlesque des deux auteurs, alors penchant également pour les situations scabreuses, poussant le curseur de la morale au plus loin, mais en étouffant cette dernière. Il n'est pas question de juger, il est avant tout question de rire de l'adultère, de comment on s'y prend, comment on s'y perd et comment on s'en remet. On n'échappe pas, comme dans leur premier film de Climb, à la question du pardon pour un homme qui sait que son ami a couché avec sa compagne. La séquence de destruction du petit intérieur bourgeois qui en découle, vaut mille discours sur le sujet. Michael Angelo Covino détourne la comédie romantique en enlevant justement ce romantisme et en questionnant le couple, le modernisme, la liberté. Et si quelques-uns voient des similitudes entre Covino et D'Apato, il y a quand même une dimension, je trouve, plus adulte, plus assurée, plus réflexible et burlesque chez Covino. Voilà, Libre-Échange est en salle depuis le 10 septembre. Le dernier film de Spike Lee est sur une plateforme. Nous parlons de Highest to Lowest.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Spike Lee, les remakes, deuxième. Alors 13 ans après l'abominable relecture de All Boy de Park Chan-wook, chef-d'œuvre du réalisateur coréen et qui avait été récompensé du grand prix du jury du Festival de Cannes de 2004, le Park Chan-wook, pas le Spike Lee, il s'intéresse non pas à une œuvre asiatique assez récente, parce qu'à peine 10 ans séparait All Boy de son remake, mais à la réactualisation d'un film sorti en 1963 intitulé chez nous Entre le ciel et l'enfer, High and Low, du cinéaste japonais Akira Kurosawa. Alors si on met de côté le célébrissime remake officieux italien de Yojimbo qui est pour une poignée de dollars de Sergio Leone, ce n'est pas la première fois que Kurosawa voit son œuvre reprise par les Américains. Alors on peut citer Les Sept Mercenaires de John Sturges qui reprenait Les Sept Samouraïs, L'Outrage de Martin Reed qui reprenait Rashomon, ou encore Le Dernier Recours de Walter Hill qui reprenait Yojimbo. Alors dans tous les cas, l'époque d'origine du récit était modifiée pour mieux explorer les thématiques et univers propres de ses auteurs, et c'est pourquoi le choix de Spike Lee semblait évident quand on se rend compte que Highest to Lowest se déroule dans le monde de la musique en plein cœur de New York, terre fétiche du cinéaste. Alors Highest to Lowest marque aussi le retour de Denzel Washington devant la caméra de Spike Lee après Mo Better Blues, Malcolm X, He Got Game et Inside Man. Cette collaboration de désormais 5 films fait de Washington Ali ce que Toshiro Mifune était à Akira Kurosawa, à la fois l'alter ego du réalisateur mais aussi l'écrin et extension de ses passions les plus profondes.
Dernière compile ou musique d'ambiance ?
Il faut le son qui va
le
bien.
Le son qui va bien.
Hey !
On se réveille, le King est là.
Got to pay back.
Je reprends Stacking Hits Records.
C'est beaucoup de pognon.
La vie ne se résume pas à l'argent. Ce qui compte, c'est l'intégrité, les valeurs.
Et tu attends du quoi ?
Je crois que dans le monde actuel, il faut parfois un petit grain de folie pour obtenir ce qu'on veut.
Le postulat de l'histoire est implacable. Un homme riche, au tournant de sa carrière et qui décide de miser gros pour récupérer toutes les parts et donc la direction de son entreprise, se retrouve face à un dilemme terrible. Il apprend que son fils a été kidnappé et qu'il ne lui sera restitué qu'après versement d'une très forte rançon. Cette demande d'extorsion arrive bien sûr au pire moment, et s'il a beaucoup de mal à se dire qu'il doit le faire, malgré l'amour évident qu'il porte à son fils, son instinct paternel reprend vite le dessus et il préfère faire une croix sur son avenir professionnel et ses ambitions personnelles. Sauf qu'un énorme coup de théâtre vient rabattre les cartes. On découvre que ce n'est pas son fils qui a été kidnappé, mais celui de son chauffeur. La méprise ne change rien au plan des ravisseurs et le héros a donc plusieurs choix. Se dire que ce n'est pas son enfant, laisser tomber un innocent qui risque de mourir par sa faute, passer pour un monstre à son cœur auprès de la communauté, ce qui aura probablement des conséquences sur ses affaires, vous vous en doutez, ou alors verser quand même l'importante somme et devenir un vrai héros, certes délesté de tout ce qu'il ambitionnait, mais un héros quand même. Ce choix cornélien est également au centre de la version de Spike Lee qui développe l'aspect social en le réadaptant à ses propres thématiques et sans oublier l'époque à laquelle il fait ce film. Car comment ne pas parler de buzz ou de bad buzz en 2025, ère dominée par les réseaux sociaux où toute vie et activité sont publiques et où le paraître est plus important que l'être.
Quelqu'un retiendrait
Comment ça, quelqu'un retient...
Votre fils a été enlevé.
17 500 000 dollars dans un sac à dos de Jordan noir. Et c'est déconné, tu verras si je rigole.
Non, j'ai pas cette...
À 11h, tu vas prendre la ligne 4, direction Manhattan, usine à thunes.
Ok, libérez-le. Et je m'arrange pour qu'il n'y ait pas de poursuite.
C'est trop tard, je te dis.
C'est jamais trop tard.
T'es plus Dieu, frérot, c'est moi, Dieu.
Alors, l'identité et l'authenticité ont toujours été des thématiques capitales chez Spike Lee. Alors ici, Denzel Washington joue David King, régulièrement surnommé King David par son entourage, un homme aux oreilles d'or qui a su faire prospérer un label de musique concentré sur des artistes afro-américains. La quête de la musique de demain est son mantra et il s'est bien débrouillé jusqu'à présent, même si sa compagnie est à l'aube d'un rachat qu'il veut contrer pour pouvoir contrôler intégralement ce qui fut la grande œuvre de sa vie. Le kidnapping bouscule cette quête humaniste personnelle, mais Spike Lee décide de désamorcer toute la tension brillamment construite dans le Kurosawa et qui marche plutôt bien ici pendant les 20 premières minutes en y injectant une décontraction et un humour très malvenu de la part de son protagoniste principal et du jeu demandé à Denzel Washington. Alors on est très loin de l'excellent polar La Rançon de Ron Howard sur un thème un peu similaire où Mel Gibson annonçait publiquement qu'il ne paierait pas la rançon demandée suite au kidnapping de son fils et engage un bras de fer assez violent avec ses kidnappeurs. Reste une réflexion sur l'authenticité de la musique et d'où provient la rage créatrice des artistes qui aurait pu être passionnante si Lee n'avait littéralement pas saboté son film avec une BO intrusive et totalement contre-productive, en plus de faire durer sans raison la plupart de ses scènes. On a quand même au compteur 2h20 de film. Ah Yes to the West est guère mieux que Old Boy. C'est un espèce d'étrange objet, à la fois très riche, parce qu'il y a la mise en scène de Spike Lee qui est toujours là, tu pourras en parler Vincent, toi qui l'as vu aussi, mais en même temps je le trouve très très pauvre en termes d'exécution, comme si c'était brouillon, un petit peu comme ses protagonistes.
Alors moi j'ai pas vu l'original, mais je trouve qu'il y a un vrai problème dans le scénario. Alors est-ce qu'il a repris exactement, je pense, à comment les ravisseurs récupèrent l'argent. Je trouve ça complètement raté et vraiment, pour pas dire nul. Bon, ah voilà, je trouve que il manque quelque chose au scénario. Après, dans la mise en scène, on peut s'attacher à ce personnage. Et un autre reproche que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de musique. Il y a de la musique qui est signifiante et pourtant, on ne traduit pas les paroles. Non, ça, je ne comprends pas. On traduit les dialogues, mais jamais les paroles de musique. Alors ça, c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre dans cette industrie du cinéma.
Oui, mais c'est surtout qu'en plus là c'est au cœur du film, c'est-à-dire que je trouve que les meilleures parties du film c'est justement le rapport entre ce que Denzel Washington défend sur la musique et on sent que la mise en scène de Spike Lee est très très inspirée, mais alors pour le reste c'est un personnage qui plane littéralement complètement. Je pense que si on vous annonce que votre fils est kidnappé, vous le prenez pas avec autant de décontraction et autant de bonhomie.
Ouais, c'est The King. Bon, en tout cas, vous vous ferez votre idée en regardant pourquoi pas Apple Plus, car il est diffusé sur cette plateforme. Nous parlons très rapidement de Fils de, film dans lequel on voit François Cluzet qui pourrait être le futur Premier ministre de la France.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
On a beau changer de nom, ne pas prendre celui de son père, personnage public, on reste le fils d'eux. C'est le cas de Nino Granel, un attaché parlementaire, fils d'un ancien sénateur à qui l'on propose le poste de Premier ministre, faute de trouver un candidat tout à fait honnête. Et c'est au fils qu'on demande de convaincre le père de sortir de sa retraite politique pour accepter le poste. Sauf qu'ils ne se sont pas parlé depuis longtemps. C'est l'un des ressorts scénaristiques de Fils d'eux, un premier film de Carlos Abascal Perot. Mais passer le doute sur la possible nomination, c'est ensuite de savoir comment il pourrait y arriver qui va apparaître à l'écran. Les coups se suivent à mesure que les alliances se font et se défont et que les protagonistes de l'histoire, convoitant tel ou tel poste et soutenant tel ou tel candidat, font profil bas ou abattent leurs cartes.
Mais c'est pas le fils de... Lionel Perrin. Le président a pensé à ton père pour devenir Premier ministre.
On n'est pas très proche avec mon père.
Le problème, c'est qu'il ne veut parler qu'à toi. Nous sommes à la veille de l'investiture et nous ignorons qui sera à Matignon.
Lionel Perrin.
Lionel Perrin !
Enfin, qui a eu une idée aussi débile ? C'est toi ?
Oh, c'est pas vrai.
Les marchés ne veulent pas de Perrin.
La France, surtout, ne veut pas de Perrin.
Et moi, j'ai confiance en la France.
Quel bordel.
Au travers d'un jeu de massacre qui multiplie les rebondissements, c'est à la description du microcosme politico-médiatique que tend en surface Fils de, en articulant un récit qui multiplie les personnages. À un moment, François Cluzet, qui interprète l'ex-sénateur, nous dit qu'il fait du jazz, qu'il cherche le tempo. Le tempo, le film le trouve très bien en ajoutant à ce jeu de massacre politique le récit d'une conquête amoureuse, celle entre un père et son fils, et puis entre un apprenti homme politique et une jeune journaliste. réaliste. Un film qui met en son cœur la fiction sur un monde du quasi tous pourri. La comédie est acerbe, le casting relevé avec un Alex Lutz qui est cette fois-ci, alors non pas réalisateur mais comédien, interprétant un homme qui se rêve ministre de l'Intérieur, prêt à tout pour y parvenir en employant le cynisme le plus cru. Fils de est en salle depuis le 3 septembre et nous donne l'occasion de jouer un blind test. Il va falloir reconnaître 5 titres de films de François Cluzet. Allez, premier extrait.
Allez bien, on va se boire un verre.
Tu te fous de ma gueule? C'est tout ce que tu trouves à dire?
Ouais, c'est pas facile, mais hein, plus tard, on va commencer au foot. Du coup, moi, je sais pas ce que tu penses vraiment, mais ça me fait flipper. T'as essayé de me comprendre? Moi, je suis à bout de nerfs. Moi, je fais tout pour que vous passiez de bonnes vacances. Mais vous êtes bien content, hein, que je m'occupe de tout, que j'organise tout. Pour finir, je passe pour le casse-couille. De toute façon, quoi que je fasse, je passe pour le casse-couille. Je peux pas me détendre, moi.
Arrête, Max. Arrête. Chaque année, tu te plains de ça. Et chaque année, t'invites tout le monde. Mais moi, je te parle pas de ça. T'as vu comment tu t'en es pris, Elliot ?
Bizarrement, ça n'a pas été trouvé dans ce studio, mais je pense qu'un bon nombre d'auditeurs ont trouvé. C'est un des films... Non, pas du tout. Je ne l'ai pas mis, celui-ci. Mais j'en ai mis un autre avec beaucoup d'acteurs français. Il y a Marion Cotillard, Benoît Magimel, qu'on entend.
Les Petits Bouchoirs, non ?
Oui, voilà, de Gilles Lelouch, Valérie Bonneton. Film de 2010 de Guillaume Canet. Une bande de copains décide, malgré un événement dramatique, de partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Ils sont invités par le personnage donc, de François Cluzet, qui est un peu tendu. 5,3 millions d'entrées en France pour ce film. Deuxième extrait.
Il souffrait, il y avait des risques d'embolie massive, je vous dis.
Il a 92 ans, il est épuisé. Vous savez comment ça se passe à l'hôpital? Je vais vous le dire, moi, comment ça se passe. Il va attendre 4 heures sur un brancard dans le froid des urgences. Hein? Ils vont l'hospitaliser sans trop savoir quoi faire de lui parce qu'il est désorienté. Parce qu'une personne de 92 ans, malade à l'hôpital, c'est toujours désorienté. Ils vont lui mettre une sonde gastrique, mais lui, il voudra l'arracher, alors ils l'attacheront. Et le pire, c'est que s'il fait une embolie pulmonaire massive, hein, ils ne feront rien. Pourquoi? Parce qu'on ne réanime pas un vieux monsieur de 92 ans désorienté. Donc il mourra dans une chambre du service de médecine interne, loin de sa famille.
Non, c'est pas ça l'hôpital, vous voyez tout en noir là.
Oui, oui, en voyant les choses plus positivement, il mourra peut-être pas. Ils le renverront chez lui, beaucoup plus affaibli, et beaucoup moins bien qu'il n'était avant d'y aller.
C'est trouvé.
C'est Médecin de campagne.
Oui, film de Thomas Litley de 2016. Dans sa campagne, Jean-Pierre, le médecin ausculte, soigne et rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Mais malade, il faudrait qu'il laisse sa place à une médecin venue de l'hôpital. Jean-Pierre est-il irremplaçable? 1,5 million d'entrées en France pour ce film. Troisième extrait, donc pour ce blind test consacré à la filmographie de François Cluzet.
Je vais me coucher.
Non? Eh, oh! Je te rappelle qu'on est censé partager le fric. Eh, oh! Je te rappelle que ça fait 3 fois que je paye le téléphone et l'électricité.
C'est moi qui ramène la bouffe.
Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques.
Et alors?
Et alors? Eh ben, on bouffe que ce qui rentre dans tes poches. Hein? Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois! T'as compris ?
C'est trouvé.
C'est Des Apprentis ?
Oui, film admirable de Pierre Salvadori de 1995. Antoine est un écrivain raté et dépressif. Fred ne fait pas grand-chose de sa vie et semble s'en contenter. Tous deux partagent un appartement et vivent de petites combines foireuses. César du meilleur jeune espoir masculin pour Guillaume Depardieu pour ce film. Je pense qu'il ne le méritait pas vraiment, mais c'est comme ça. 600 000 entrées en France. Un nouvel extrait pour ce blind test.
Si vous croyez que je vais me laisser faire, cher monsieur, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Hein? Contrairement à ce que vous croyez, je connais très bien mes droits. L'internement arbitraire, ça peut aller chercher très loin. On est bien d'accord? Je n'ai pas compris qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Hein? Elle ment, comme elle respire.
Voyons, Paul, vous l'avez battue.
Battue? Je l'ai giflé une fois, en 6 ans de mariage. Je vous jure qu'elle ne l'avait pas volé. Si c'était à refaire, on ferait tout de suite.
Cette nuit, vous vous rendez compte que vous avez failli l'estropier.
Mais vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir ce que j'ai subi.
Ça n'a pas été trouvé. Alors, c'est l'exploration de la jalousie obsessive d'un homme convaincu de l'infidélité de sa femme.
C'est pas l'enfer.
Oui, et oui, de Claude Chabrol de 1994. Le film décrit avec précision la mécanique de la suspicion et de la paranoïa conjugale à travers cette douloureuse descente psychologique. 931 000 entrées en France pour ce film. Dernier extrait, on termine avec César à la clé. Alors, attention quand même au dialogue, c'est costaud.
T'as jamais baisé ma femme. Elle était à Lyon ce soir-là. Ouais. Et moi, je peux le prouver et faire sauter ton alibi. Moi, je sais pas si t'as buté le fils Novitch, j'en ai rien à foutre. Ce que je sais, c'est que moi, on m'accuse d'avoir tué mon ami d'enfance. J'aimerais savoir pourquoi. Alors je te le dis, tu me dis tout ce que tu sais, autrement tu vas aller te faire enculer en tôle.
Tu crois que j'ai peur d'aller en tôle? Je m'en bats les couilles de la tôle. Mais je l'ai pas buté, le fils Neuville. Ce soir-là, j'avais une affaire. J'avais pas d'alibi, elle m'a sorti de la merde, voilà.
Tu l'as revue depuis?
Mais arrête tes conneries, elle est morte.
Et pourquoi elle a fait ça pour toi?
Mais j'en sais rien, elle a dit à mon avocat ce que je devais dire, je l'ai dit. Point barre, maintenant tu te casses. Casse-toi, pédé. Va.
Alors j'espère que les enfants étaient éloignés du poste. Ça a été trouvé.
C'est Ne le dis à personne.
Oui, film de Guillaume Canet de 2006. Film qui a remporté énormément de succès puisqu'il a eu 4 Césars, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleure musique originale. C'était M qui s'en était chargé. Et puis meilleur acteur donc pour François Cluzet. 8 ans après la disparition de sa femme, un médecin reçoit un message mystérieux qui bouleverse sa vie. Entre enquête et souvenirs douloureux, il doit affronter secrets et trahisons enfouis. 3,1 millions d'entrées en France pour ce film. Ainsi s'achève ce blind test. C'est une ressortie, nous parlons de À toute épreuve de John Woo.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Alléluia ! Une arlésienne cinéphile vient de trouver le plus heureux des dénouements et nous étions nombreux à attendre ce jour. Alors il y a quelques mois, le studio américain Shout a annoncé avoir acheté plus de 150 films du catalogue hongkongais des années 80 et 90, catalogue détenu par des ayants droit n'ayant aucune vision de ce qui était en leur possession et donc aucun avenir pour eux. Invisibles et inexploitables, hein, les plus grands films de, entre autres, Tsui-Hark, Ringo Lam et John Woo se voient désormais offrir une seconde vie via une restauration 4K exceptionnelle, une exploitation en support physique vers la fin de l'année et une ressortie graduée en salle. Mais pas une ressortie à petite échelle, hein, non. Hein. Là, vous pourrez voir The Killer, Le Syndicat du Crime, Une balle dans la tête et d'autres grands films sur plusieurs semaines dans des multiplexes comme des salles d'art et essais. Et Metropolitan Film Export, hein, qui a acquis les droits d'exploitation pour la France, a décidé de commencer très fort avec rien de moins que le film d'action Terminal de John Woo et du genre, sorti en 1992, le bien nommé À toute épreuve. À toute épreuve est le film d'action Terminal. Alors sans lui, pas de Matrix, The Raid ou John Wick hein, au cinéma. Sans lui, pas de Max Payne en jeu vidéo. Son titre original, Hard Boiled, soit dur à cuire, fait directement référence à ce genre de polar du même nom où un homme de loi marginal va faire la loi avec ses colts. Alors dans le rôle de cet homme de loi surnommé Tequila, Chow Yun-Fat, révélé et sublimé par John Woo dans Le Syndicat du Crime 1 et 2 en 86 et 87, puis canonisé icône absolue dans The Killer en 89, hein, assis encore un peu plus hein, sa ressemblance voulue avec Alain Delon. Aux manettes, hein, un John Woo donc qui lâche complètement la bride dans la démesure. À toute épreuve est quasiment un film d'action non-stop de 2 heures, utilisant tous les artifices de cinéma les plus impactants comme les freeze frames, les ralentis, les raccords audacieux et répétitions d'action jusqu'au plan séquence sur plusieurs étages dans un hôpital. On pourrait dire que le film pourrait pâtir de son apparente simplicité, mais c'est la simplicité de son histoire et la radicalité de son traitement qui en font une œuvre beaucoup plus profonde et percutante qu'un simple film d'action hors norme. Alors on sait que les auteurs simplifient leurs traits au fur et à mesure qu'ils avancent dans la pratique de leur œuvre et John Woo, en signant sa lettre d'adieu au Hong Kong pré-rétrocession, va droit au but et tisse un récit simple mais chargé en symbolique en s'affiliant directement au mythe qu'il convoque. Alors à la manière de George Miller et de son monumental Mad Max Fury Road, À toute épreuve inscrit sa formule épurée dans la légende, transforme le film de chevalier des temps modernes en chanson de gestes rythmée au calibre 12 et donc en chef-d'œuvre absolu. Je pense que c'est un immanquable total parce que la séance à laquelle j'ai assisté, le son était tellement fort que j'en ai eu les oreilles qui ont bourdonné.
Ce film, À toute épreuve, est dans une quarantaine de salles encore en France.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et on aura encore pioché des films à Cannes, Sophia.
Et oui, je vous parlerai de Dalloway et de Yes.
Et toi, Guillaume, un film ?
Oui, un film, un gros frisson. C'est le 4e volet de The Conjuring.
À la semaine prochaine.